VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mardi 11 octobre 2022. Avec vous, Eric Manirakidza, voici d'abord le sommaire. Au Burkina, appel à la libération d'un officier accusé d'avoir projeté un coup d'État. Au Tchad, démission du Premier ministre de transition au lendemain de l'annonce de la nomination prochaine d'un gouvernement d'union nationale. Nouvelle frappe russe contre l'Ukraine, le G7 promet de demander des comptes à Poutine. Le président américain Joe Biden veut réévaluer la relation entre Washington et Riyad. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Au Burkina Faso, des partisans du lieutenant-colonel Emmanuel Zongrana appellent à sa libération et menacent de descendre dans la rue. L'officier militaire est écroué depuis mi-janvier pour des faits présumés de tentatives de déstabilisation des institutions, puis avant le putsch du 24 janvier. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Brandissant des pancartes avec la mention « Libérer le lieutenant-colonel Zongrana », ses partisans assurent que sa place est au front dans la lutte contre le terrorisme. Nous lançons un appel à toute la population à se mobiliser pour des actions à venir si la promesse des nouvelles autorités d'examiner le dossier politico-judiciaire n'est pas suivie de la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zongrana. C'est ce qu'a déclaré Boris Guissou, porte-parole de ses partisans. Emprisonné depuis le 14 janvier, Emmanuel Zongrana est poursuivi pour tentative de déstabilisation des institutions de l'État, détournement de biens publics, faux et usage de faux. Ancien chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando, basé à Waïguia dans le nord, le lieutenant-colonel a passé le témoin le 21 décembre 2021 avant de regagner Ouagadougou où il attendait une nouvelle affectation. Lui et une dizaine de militaires et civils ont été mis en examen dans le cadre de cette affaire survenue quelques jours avant le putsch du 24 janvier.
Plusieurs centaines d'élèves ont manifesté mardi à Djibo, principale ville du nord du Burkina Faso, sous blocus djihadiste depuis plusieurs mois pour revendiquer leur droit à l'éducation, notamment l'envoi d'enseignants. Les jeunes manifestants ont arpenté les artères de la ville en brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous sommes aussi des Burkinabés, nous avons droit à l'éducation ». Selon le syndicat national des enseignants et du secondaire et du supérieur, l'année scolaire en cours est marquée par la fermeture de plus de 4 258 écoles qui affectent 708 341 élèves sur l'ensemble du territoire en raison des crises sociopolitiques, sécuritaires, sanitaires et humanitaires sans précédent. Le Premier ministre du Tchad a démissionné mardi au lendemain de l'annonce par le général Mahamat Idriss Déby Itno de la nomination prochaine d'un gouvernement d'union nationale. Les détails avec Nani Tetalani.
Albert Tahini Padake a présenté sa démission et celle de son gouvernement lors d'une audience avec le chef de l'État qui les a acceptés. Il a été nommé il y a 18 mois. Monsieur Padake, 55 ans, a d'abord été Premier ministre sous Idriss Déby Itno, puis s'est présenté contre lui à la présidentielle du 11 avril 2021. Il a aussi été député et président du groupe parlementaire du Rassemblement national pour la démocratie au Tchad, principal allié du MPS, l'ancien parti au pouvoir. Sa démission est considérée comme logique avant l'avènement annoncé d'un gouvernement d'union nationale que le général Mahamat Déby a promis de nommer. Et il a promis de mettre en place un gouvernement d'union nationale dans les tout prochains jours et de tout faire pour un retour à l'ordre constitutionnel et du pouvoir au civil à l'issue de la transition.
Un militaire congolais accusé d'avoir décapité un adolescent dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC, a été arrêté et comparaîtra devant la justice militaire dimanche après-midi. Un jeune homme de 16 ans qui gardait les vaches de son père à côté de l'état-major de la 12e brigade de réaction rapide de Minembwe dans le territoire de Fizi a été tué à la machette par un militaire, a déclaré Gadi Mukiza, bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Près de 200 migrants, en majorité des Tunisiens, ont été interceptés en mer en deux jours avant qu'ils projetaient de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée, annoncé mardi le ministère de la Défense tunisien. La marine tunisienne a réussi au cours du week-end dernier à secourir 194 migrants clandestins. Lundi, 8 corps de migrants, probablement des Tunisiens portés disparus depuis deux semaines, avaient été repêchés au large du sud-est de la Tunisie, d'après le Croissant Rouge local. Les ONG qui poursuivent en justice Total Energy pour son méga projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie ont demandé le renvoi de l'audience prévue mercredi à Paris, faute de temps pour répondre à l'argumentation du groupe français. Les six ONG ont assigné en justice Total Energy en octobre 2019. Elles accusent le groupe énergétique de mener ses projets d'extraction pétrolière en Ouganda et de construction de l'oléoduc correspondant sans respecter le devoir de vigilance sur le respect des droits humains et de l'environnement imposé par une loi française pionnière en 2017. L'ONU appelle à une transformation complète du système énergétique dans le monde. Le secteur de l'énergie n'est pas seulement une source majeure d'émissions à l'origine du changement climatique, mais il est également vulnérable aux changements qui accompagnent le réchauffement de la planète, souligne un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale des Nations Unies rendu public mardi. Il faut doubler l'offre d'électricité propre d'ici à 2030 pour limiter le réchauffement climatique, exhortent les Nations Unies.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden veut réévaluer la relation des États-Unis avec l'Arabie Saoudite, a fait savoir aujourd'hui la Maison-Blanche. C'est la conséquence de la baisse de production décidée la semaine dernière par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. Jean-Roger Bion.
Le président américain a été très clair sur le fait que nous devons continuer à réévaluer cette relation, que nous devons être prêts à la reconsidérer, a déclaré John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Les 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, menés par l'Arabie Saoudite et leurs 10 partenaires conduits par la Russie, ont décidé la semaine dernière de sabrer les quotas de production. La décision du cartel pétrolier a suscité une vague d'indignation parmi les membres du Congrès américain. Le puissant chef de la Commission des affaires étrangères du Sénat, Bob Menendez, a menacé lundi de bloquer toute future vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Deux autres démocrates, le sénateur Richard Blumenthal et l'élu de la Chambre des représentants Ro Khanna, ont signé dans le journal Politico une tribune allant dans le même sens. L'Amérique ne devrait pas livrer un tel contrôle illimité de système de défense stratégique à un pays apparemment allié de notre plus grand ennemi.
De nouvelles frappes russes visant des installations énergétiques dans la région de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, ont causé de sévères destructions selon les autorités. Ceci alors que le G7 se réunit en urgence avec la participation du président ukrainien. Le point avec Abdrahman Dien.
Volodymyr Zelensky, invité du sommet, a appelé le G7 à imposer une limite sur les exportations russes de pétrole et de gaz. Il demande la création d'un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine, tout en excluant des pourparlers avec le président russe Vladimir Poutine. Les 7 pays les plus industrialisés promettent de demander des comptes à la Russie sur ces bombardements. Le président américain Joe Biden a déjà promis de continuer à fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour se défendre, y compris des systèmes perfectionnés de défense anti-aérienne. En prélude à la réunion du G7, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a jugé la situation claire et bien prévisible. La confrontation va se poursuivre, a-t-il déclaré. Dans la matinée, la Russie a poursuivi les tirs contre son voisin, frappant notamment les installations énergétiques de l'ouest, du centre et du sud. Plusieurs villes ukrainiennes sont privées d'électricité, poussant le gouvernement à demander aux populations d'économiser l'énergie. La Russie a déclenché hier lundi une vague de frappes en réponse à l'explosion qui a endommagé le pont reliant la Russie à la Crimée, annexé en 2014 par Moscou.
Le gouverneur de la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a accusé mardi Kiev d'avoir effectué une frappe sur une installation électrique, ce qui a privé de courant plus de 2000 habitants. La Turquie a appelé mardi la Russie et l'Ukraine à un cessez-le-feu avant une rencontre prévue jeudi à Astana entre le président turc et son homologue russe. Le Parlement irakien tiendra jeudi une séance consacrée à l'élection du président de la République, une première étape indispensable pour former un nouveau gouvernement et tenter de mettre fin à l'impasse politique qui paralyse le pays depuis un an. Le président américain Joe Biden a félicité le Liban pour la conclusion d'un accord sur la délimitation de la frontière maritime avec Israël lors d'un appel avec son homologue Michel Aoun. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce soir par Mohamedou Oumfa.
La compagnie aérienne sénégalaise Air Sénégal a annoncé lundi dans un communiqué la suspension de ses vols en direction de l'Afrique centrale, notamment sur la triangulaire Cotonou-Douala-Libreville au départ de Dakar. Cette décision qui prend effet à compter du 30 octobre 2022 est justifiée par les faibles performances financières sur cette ligne triangulaire depuis le lancement en mars 2021, explique l'entreprise dans son communiqué. L'Algérie souhaite diversifier son économie, sortir de la dépendance aux hydrocarbures et attirer des investissements étrangers, a fait savoir le Premier ministre Aymène Ben Abderrahmane lors d'un forum économique organisé à Alger à l'occasion de la visite de son homologue de France, Elisabeth Borne. Il a cité l'agriculture, la production de médicaments, les énergies renouvelables et les infrastructures dans un contexte d'assouplissement récent de la législation algérienne sur les investissements étrangers. Il faut doubler l'offre d'électricité propre d'ici à 2030 pour limiter le réchauffement climatique, ont exhorté les Nations Unies mardi, suggérant aussi que les répercussions de la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement énergétique pourraient permettre d'accélérer la transition.
Et en transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
La FIFA va distribuer 209 millions de dollars aux clubs concernés par le Mondial 2022.
Oui, l'instance mondiale du ballon rond va donner cette somme aux clubs qui libèrent leurs internationaux pour le Mondial 2022 au Qatar. D'après la FIFA, chaque formation recevra environ 10 000 dollars par jour de mise à disposition d'un de ses joueurs, y compris pendant la préparation officielle en amont du tournoi, prévu du 20 novembre au 18 décembre. Cette indemnisation concerne tous les clubs pour lesquels le footballeur aura joué dans les deux ans précédant la Coupe du Monde. La FIFA avait mis en place ce système en amont du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Lors du Mondial 2018 en Russie, 416 clubs issus de 63 fédérations nationales s'étaient partagés le même montant de 209 millions de dollars.
Quatrième journée en Ligue des Champions ce soir.
Le Real Madrid, tenant du titre, et le PSG pourraient valider leur ticket pour les huitièmes de finale dès ce soir. Un succès des Madrilènes, hauteur de 9 sur 9 depuis l'entame de cette Ligue des Champions, les qualifierait pour le tour suivant. En raison du conflit en Ukraine, le club merengue se déplace à Varsovie pour affronter le Shakhtar Donetsk. Accroché à Lisbonne la semaine passée, un but partout, le Paris Saint-Germain voudra reprendre la première place du groupe H face au Benfica. L'AC Milan et Chelsea qui se rencontrent en Lombardie voudront surtout éviter une défaite qui compromettrait sérieusement leurs chances de qualification.
Et puis Yacouba, on en parlait hier lundi, c'est la fin pour Enoch Mwepo.
Le milieu de terrain de Brighton et de la Zambie arrête sa carrière de footballeur à 24 ans seulement en raison d'une maladie cardiaque héréditaire. Des cas pareils sont fréquents pour des raisons de maladie cardiaque. Nous avons cherché à comprendre pourquoi, explication avec le docteur Ibrahim Séré, médecin à la Fédération Burkinabé de football, joint à Ouagadougou.
Les maladies cardiaques héréditaires, ce sont des pathologies rares. Ce sont des pathologies rares qui nécessitent vraiment une expertise médicale spécialisée et en vue d'une prise en charge optimale. Parce que si elles ne sont pas traitées à temps ou si elles ne sont pas diagnostiquées à temps, elles peuvent conduire à des complications fatales telles que la mort subite.
Le docteur Ibrahim Séré, médecin à la Fédération Burkinabé de football.
Athlétisme avant de nous quitter, Marc Kangongo suspendu provisoirement pour dopage.
L'annonce a été faite par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Marc Kangongo
a été contrôlé positif à des substances dopantes. Cette annonce intervient alors que les cas de dopage se multiplient au Kenya depuis le début de l'année. Kangongo est le 21e athlète kenyan suspendu en 2022 suite à des suspicions ou de cas avérés de dopage. La Fédération d'athlétisme kenyane a annoncé avoir renforcé ses moyens afin de démanteler les cartels et accélérer la guerre faite au dopage.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza. Place au dossier du jour. Au Cameroun, le nombre de patients qui souffrent de troubles mentaux a plus que doublé l'année dernière, alors que le pays est confronté à une crise séparatiste dans ses régions occidentales et le règne de Boko Haram dans le nord. Depuis Yaoundé, au Cameroun, Moki Edwin Kinzeka fait le point dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale ce 10 octobre. Le récit est de Jean-Roger Bion.
Fombé Edwick est le directeur du centre de santé mentale Vine à Bamenda, capitale de la région anglophone dans le nord-ouest du Cameroun. Son hôpital a été choisi pour abriter les activités de la Journée mondiale de la santé mentale parce que le nombre de patients présentant des troubles psychiatriques est passé d'une vingtaine en 2021 à plus de 100 en cette année.
Nous recevons ceux qui ont vécu des traumatismes et ils sont tristes. Beaucoup qui se plaignent d'insomnie, certains sont incapables de se contrôler. Ils sont très agités. Certains ont de graves problèmes de colère. Ils présentent des tendances émotionnelles et comportementales qui sont incontrôlables.
D'après M. Fombé, de nombreuses familles n'ont pas les ressources pour s'occuper des malades mentaux à domicile et abandonnent les patients au centre ou les mettent à la rue. Rebecca Nkwate est la responsable gouvernementale en charge des malades mentaux dans la région du Nord-Ouest. Elle affirme que le nombre de patients psychiatriques demandant de l'aide dans la région est passé de moins de 2500 à plus de 6 000 au cours de l'année écoulée.
Certains d'entre eux viennent ici déjà maltraités. Alors nous écoutons leur histoire pour remonter leur morale et dans le cadre de la recherche de solutions, cela peut nécessiter que nous fassions des visites à domicile. Nous les aidons au niveau de la police et nous travaillons avec ceux qui viennent à l'hôpital pour gérer des traumatismes. Nous nous assurons qu'ils bénéficient des mêmes droits que les autres personnes.
Le nombre de malades mentaux au Cameroun est passé d'environ 10 000 à 23 000 au cours des 12 derniers mois. Le gouvernement affirme avec le ralentissement de la crise séparatiste dans les régions de l'ouest et du terrorisme de Boko Haram à la frontière nord, les travailleurs humanitaires sont mieux à même de trouver et d'aider les patients abandonnés dans les villages où le combat était intense. Laure Mengeme est la directrice de la santé mentale au ministère de la Santé.
Des travailleurs qui sont dans un état de mal-être pour de nombreuses raisons, les conditions de travail qui ne sont pas adaptées, au point où quand vous pensez que vous devez vous rendre dans votre lieu de travail, vous commencez à avoir mal à la tête, de devenir nerveux. C'est l'agressivité, c'est l'irritabilité, c'est la violence, etc. Ça, c'est un problème de santé mentale. Quand vous perdez un être cher, vous ne pouvez pas dire exactement où ça fait mal. Ça, c'est un problème de santé mentale.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, les inégalités croissantes, les conflits prolongés, la violence et les urgences de santé publique continuent de peser sur la santé mentale. Selon l'ONU, 84 millions de personnes dans le monde ont été déplacées de force l'an dernier, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de personnes ayant besoin de soins de santé mentale. Cette année, le thème de la Journée mondiale de la santé mentale est de faire de la santé mentale et du bien-être pour tous une priorité mondiale.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En RDC, la lutte contre la corruption et le détournement porte peu à peu des fruits. Le pays a plus que doublé son budget national en trois, ce grâce au contrôle imposé par l'Inspection générale des finances dans plusieurs entreprises et régies financières. Mais ces efforts sont mis à mal par une justice inefficace. Certaines pesanteurs politiques dénoncent la société civile et l'Inspection générale des finances. lutte contre la corruption et le détournement, avancées et défis, un reportage signé Alex Katikatai à Kinshasa.
Voilà 3 ans maintenant que le président Tshisekedi a montré son ambition de mettre fin à la corruption et au détournement des deniers publics. Ces deux habitudes sont bien enracinées dans la classe politique congolaise depuis plusieurs décennies maintenant. 3 ans après les ambitions de Tshisekedi, le pays a fait quelques progrès. Al Kitenge, analyste économique et homme d'affaires, en veut pour preuve le budget national qui a plus que doublé en 2 ans.
Nous sommes en train de multiplier par 2,5 le budget de l'État. Ça, ce n'est pas une réussite, c'est une révolution. Et rien que ce premier pas, pour moi, est une très grande réussite et il faut quand même l'accorder à la volonté du chef de l'État à pouvoir briser... Et ce n'est pas facile, tous les bras de la corruption. Si on informatise le système de gestion du pays, nous allons multiplier par 5. Donc on aura multiplié le budget par 10.
Pour se donner le moyen de sa politique, le président Tshisekedi avait réactivé les services de l'inspection générale des finances, un service de contrôle placé sous son autorité. C'est Jules Alinguete qui est nommé à la tête de ce service. Il avait pour mission traquer les détourneurs et contrôler l'utilisation des fonds publics.
Nous avions aujourd'hui mis l'étape sur les contrôles a priori de la dépense publique des entreprises de l'État et même des provinces, les contrôles a priori que nous avions baptisé au Congo la patrie financière. En fait, c'est pour barrer la route à cette résistance au changement, c'est pour éviter que les gens détournent des fonds et que nous ayons encore des gymnastiques judiciaires à faire et que ça nous entraîne dans beaucoup de procédures et tout.
Cette patrie financière encore en cours a permis une certaine orthodoxie dans l'usage des fonds publics. Mais ces avancées seules ne peuvent pas permettre de mettre fin à la corruption à cause de certaines pesanteurs politiques, estime Ernest Parero de la Ligue congolaise pour la lutte contre la corruption.
Est-ce que les avancées nous permettent de lutter contre la corruption? Je dis jusqu'à preuve du contraire, non. Pourquoi? Parce que si vous regardez très bien l'IGF, elle a fait des contrôles sur le passé de l'ancien régime, le régime de Kabila, c'est que tout le monde a soutenu. Mais maintenant, dès que c'est arrivé sur la gestion de l'actuel président de la République, l'IGF est en train d'y aller à petits pas. Il y a des détournements au sein des ministères. La patrie financière n'est pas au niveau des ministères.
À l'IGF, on rejette ces affirmations. Selon Jules Alinguete, plusieurs membres du gouvernement actuel ont des démêlés avec ce service et leurs dossiers sont transmis à qui de droit.
Il y a aussi tout un autre problème aujourd'hui. Quand on a des dossiers avec les membres du gouvernement, et c'est la Cour de cassation qui prend les relais. Donc, il ne me revient pas aujourd'hui d'expliquer ça, mais c'est à la Cour de cassation qui fait ce travail-là. À notre connaissance, nous avions transféré des dossiers de certains membres du gouvernement pour certains problèmes au niveau de la Cour de cassation. Ce n'est pas notre problème.
Cette année, les régies financières ont atteint le maximum de leurs assignations en 9 mois, ce qui a poussé certains analystes à réclamer le vote d'une loi rectificative de la loi financière 2022 afin d'y intégrer les recettes des 3 mois restants. Alex Katikatai, Kinshasa, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Bukavu sur 97.4 FM.
Les agriculteurs kényans se tournent de plus en plus vers la culture de l'avocat. Ces dernières années, la demande de ce fruit a explosé sur le plan mondial en raison de ses bienfaits pour la santé. Le Kenya est le plus grand producteur d'avocats d'Afrique, exportant environ 80 000 tonnes par an. Les détails avec Thierry Kaoré.
Albert Goumo, comme d'autres petits agriculteurs de l'ouest du Kenya, cultivait traditionnellement le maïs. Mais dans un contexte de forte hausse de la demande mondiale de l'avocat, des mauvaises ventes du maïs et des changements climatiques, il a préféré mettre l'accent sur l'avocat. Selon lui, les avocats offrent de meilleurs prix, de meilleurs rendements et peuvent être récoltés en continu pendant 8 mois de l'année.
J'ai commencé à récolter il y a environ 5 semaines. La première récolte m'a rapporté $50. Pendant la deuxième récolte, j'ai obtenu $90.
Goumo dit que sa troisième récolte pourrait même lui rapporter $250. Dans cette autre ferme de 10 hectares à Kital, dans l'ouest du pays, Ibrahim Simiou, un ingénieur électronique à la retraite, a décidé de lancer une entreprise en 2008 pour promouvoir les avocats à l'exportation. Il forme également les agriculteurs sur la façon de pratiquer les cultures de qualité.
Comme beaucoup de ces agriculteurs, nous avons également dû nous diversifier en passant du maïs à l'avocat, principalement parce que nous avons compris et nous croyons que l'avocat a obtenu de meilleurs retours sur l'investissement en termes d'argent que le maïs. Cela ne veut pas dire que le maïs n'est pas important.
Le Kenya offre un climat favorable à la culture des avocats. Les produits finissent dans des usines d'exportation de fruits frais pour le nettoyage, l'emballage et l'expédition de certaines variétés vers l'étranger. Clarisse Wambui est responsable de l'usine de transformation de fruits frais Mofarm.
Notre plus gros marché à l'heure actuelle pour l'avocat, Haas, est l'Espagne et quelques quantités vont également aux Pays-Bas. Pour le Fuerte, ils vont au Moyen-Orient et aussi en Égypte. Et aussi, nous avons quelques quantités qui vont en Turquie.
Simeyou et ses collaborateurs travaillent désormais à la mise en place d'une usine de conditionnement pour transformer les avocats destinés à l'exportation. Cela offrirait une meilleure rentabilité et les agriculteurs seront en mesure de mieux subvenir aux besoins de leurs familles et de développer leur communauté.
Washington, la voix d'Amérique.
Au Togo, la ville d'Agbodrafo, à 30 km de Lomé, a accueilli la première édition du festival Sifio. Sifio, c'est le nom d'un mets culinaire très prisé dans la région, un nom à portée identitaire qui prône le rassemblement. C'est l'ambition que porte justement cette festivité qui met en avant la tradition et au-delà l'histoire du peuple guin. Le reportage de notre correspondante Amène Assignon.
C'est dans la Liesse que les riverains d'Agbodrafo ont défilé dans les ruelles de la ville, avec des accoutrements divers, des déguisements colorés et des parades. Ce carnaval dénommé Ponchonchon retrace l'histoire du peuple guin, notamment son installation depuis le Ghana sur les côtes togolaises. Et c'est l'une des grandes attractions du festival Sifio, une festivité dédiée à promouvoir le brassage et l'identité culturelle, car elle rime avec la célébration de la fête traditionnelle annuelle en pays guin, Ekpeyepe, comme l'explique le délégué général du festival, Wisdom Siwavi Mensa.
C'est très important de porter un regard sur la tradition et surtout de permettre que cette tradition-là reste pérenne. Ça fait 359 ans qu'on est en train de célébrer la fête traditionnelle en pays guin. On a fait d'abord la remarque que nos contenus devenaient monotones. C'est une fête qui draine beaucoup de monde. On s'est rendu compte que, à part le contenu traditionnel que nous avons conventionnel, c'est beaucoup de touristes qui arrivent, c'est beaucoup d'étrangers, mais c'est très peu d'événements. Et très peu de connaissances, surtout si l'histoire, il n'y a pas une lucarne particulière pour édifier plus les gens sur nos valeurs, nos particularités et cette convivialité aussi qu'on peut partager avec les gens. Donc Sifio Festival vient à point nommé répondre à ces besoins-là.
Expositions, conférences, formations, concours culinaires, activités sportives, concerts et notamment le carnaval marquent cette première édition du festival.
Les grandes attractions, comme on le dit, c'est d'abord notre carnaval qui n'a rien à voir à Rio. L'année prochaine, notre ville invitée par exemple sera le Brésil parce que notre carnaval ici est très similaire à ce qui se fait dans la ville de Bahia au Brésil. Donc la particularité, c'est d'abord ce brassage que nous créons entre la culture moderne et la culture ancestrale ou traditionnelle. Ce que nous créons aussi, c'est ces débats intergénérationnels sur ce qui est la valeur même du peuple guin. C'est beaucoup de traditions. C'est des journées de formation aux femmes sur l'autonomisation des métiers pratiques. C'est aussi des journées écologiques et des activités sportives et surtout des concerts pour jeunes et pour tous les âges.
Ces réjouissances populaires sur fond de tradition ont conquis l'AC qui n'a pas hésité à faire le déplacement depuis Lomé, la capitale.
C'est la première fois de voir ça, mais c'est très chouette. Et j'ai vu que finalement, en tant que Togolais, en tant qu'Africain, nous sommes passionnés par notre culture, c'est bon.
Le festival est aussi une ouverture sur la ville d'Agbodrafo pour découvrir ses atouts culturels et historiques, puisqu'elle a été une ancienne cité portugaise. Amène Assignon à Lomé pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Joselle Morissin, Lionel Lunanila Gahima, Georges et Léonard Sagno et Michel Claire-Joseph pour la réalisation de cette édition et la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de rédaction. Au micro, Eric Banilakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, sur votre site voafrique.com. Sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.